France Culture.
Autisme, les combats d'une vie. Épisode 3, adolescence, une transition sous tension. Un documentaire de Jérôme Sandelaars, réalisé par Cécile Lafont.
Georges et Louis sont nés jumeaux. Et il s'est passé que leurs trajectoires se sont rapidement écartées. À l'âge où l'on regarde le manège enchanté, Georges me dit un matin, Louis a rêvé qu'il mangeait des carottes. Et il s'est endormi d'un coup comme le lapin Flappy. Je demande un peu surprise. C'est ton rêve ou le rêve de Louis? Il me répond avec logique. C'est le rêve de Louis puisque c'est Louis qui l'a rêvé. Georges inclut Louis dans ses conversations avec les peluches. Mais peu à peu, l'aplomb de la logique trébuche sur une incertitude angoissante. Pourquoi Louis ne parle pas?
Georges?
Oui?
Tu l'as écouté ce petit texte?
Non, jamais. Jamais.
Qu'est-ce que ça t'inspire, ce que vient de dire ta maman?
Qu'est-ce que ça m'inspire? J'étais pas... Bon, je me souviens de rien de cette époque, donc bon, peut-être, hein, mais... Bon, les temps ont changé, apparemment.
C'est-à-dire?
Je ne suis plus admiratif. En tout cas, bon, compliqué, vrai, compliqué d'être admiratif d'un handicap, mais... voilà, quoi, je... Maintenant, j'ai... Même s'il a toujours l'air aussi heureux, hein, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais il a toujours l'air aussi heureux, bon voilà. Hein. Moi aussi maintenant, donc bon, pas de problème. Hein.
Louis, il a toujours été envahissant dans ma vie, on va dire ça comme ça, ouais. C'est-à-dire qu'il prend énormément de place, enfin on habite au même endroit, donc c'est un peu logique. J'étais pas très heureux d'être avec Louis en général, mais avec le temps... je l'ai ignoré en fait, tout simplement. J'ai commencé à l'ignorer. Et maintenant, on se parle quasi même plus en fait. On n'interagit pas l'un avec l'autre en général. Donc parce que moi, je suis toujours dans ma chambre en bas. Louis, il est toujours sur son piano en train de courir un peu partout. Ou alors, il est en train de dormir. Et voilà. Hein. Avant, il était plus envahissant. Maintenant, on s'est séparés. Voilà, tout simplement.
C'est difficile pour toi d'évoquer ton frère?
Non. Non, vraiment pas, non.
Quand tu parles de lui à l'extérieur, qu'est-ce que tu dis?
Ah, je parle pas de lui, mais quand ça m'arrive, il est autiste. Il m'embête beaucoup. Et il fait du piano, voilà, en général, c'est ce que je dis.
Moi, je me rends compte maintenant que être classé du côté de l'enfant normal, c'est pas plus simple.
Mireille Battu, mère de Louis et Georges, 16 ans.
Et donc, du côté de Georges, lui est... classé du côté de la norme, voilà, c'est pas du tout évident. Parce que c'est quoi être normal? Se préparer à rentrer dans la vie active? Est-ce que la vraie vie, c'est préparer Parcoursup? Est-ce que c'est choisir sa spécialité en première pour ensuite l'abandonner en terminale? Et donc, j'essaye de discuter avec Georges, de le convaincre... que ça fait partie des accommodements auxquels il faut consentir pour ensuite pouvoir choisir l'orientation qu'on veut, hein, et la vie qu'on veut. Bon, voilà, donc Georges, il n'a pas tout à fait les mêmes questions, mais c'est tout aussi compliqué.
Ça y est, Louis? Il te plaît, ton nouveau Roland?
Celui-là est nouveau. L'autre, il l'a habituellement déjà ici. Et donc il va l'amener avec lui en Belgique quand il va partir. Il part pas sans un clavier. Hein. Louis va à l'école depuis qu'il est en Belgique.
Faute de structure adaptée ici en France.
Ah bah oui, adaptée ou même pas adaptée, vous savez, on n'en est même plus là. La perspective, c'était la maison sans solution, sans rien. Oui, il est très dynamique, il a plein d'énergie. Vous l'imaginez 24 heures sur 24 à la maison? C'est un enfer.
Donc il n'y avait pas de place?
Il n'y avait pas de place. Bah, de toute façon, avant d'avoir le droit d'aller en Belgique, il faut vraiment montrer qu'on a cherché partout, partout, partout. Et donc, 2 ans à l'avance, on commence à constituer les dossiers. Donc, il faut passer par une commission dérogatoire où vous allez défendre le fait que vous n'avez effectivement pas trouvé de solution. Parce que la logique d'envoyer son enfant en Belgique, outre qu'elle est douloureuse, elle est hyper dérogatoire. Parce que ça coûte de l'argent.
Donc c'est la Sécurité sociale française, c'est ça ?
Et la CNSA.
C'est... Donc ils versent cet argent à la Belgique.
Ben oui. Et ça coûte, à la région Wallonne, 22 000 euros par an. Sachant que le coût de l'école pour un enfant en France, c'est 9 000 euros. Vous savez que nous sommes le pays de l'OCDE qui a le plus grand nombre d'enfants par enseignant. C'est pas tout à fait par hasard qu'on n'arrive pas à inclure les enfants qui ont un handicap.
Gamin, faut monter dans l'escalier, hein. faut pas rester là assis comme ça. Bon, Gaban, faut pas rester assis là comme ça dans l'escalier. Je crois qu'il est temps, t'es fatigué, il est temps d'aller dans la salle de bain. Ok. Hein? T'es un comique, hein? Ouais. Si tu pouvais monter dans la salle de bain, t'as encore 2 marches. Juste 2 marches. Et après, hop, tu te brosses les
dents. Alors, moi, déjà, j'ai envie de dire ado et autiste, c'est gaz à tous les étages. Mmh. Hein, et sévèrement ado et autiste sévère, hein, c'est même plus du gaz, hein, c'est la bombache. Enfin, pas la bombache, la bombe G, hein, j'ai comme Gabin.
Laurent et Marie-Lou Savard, parents de Gabin.
Qu'est-ce qui s'est passé, ben, l'adolescence, les troubles?
Alors, il a quitté l'école, il avait 12 ans.
Il est sorti de l'école, et là, il était 24/24 avec nous, à la maison, pendant 2-3 ans.
Ouais.
Avec, alors... 24/24 avec des psychologues qui venaient aussi faire des séances, faire travailler sur des choses cognitives, des activités, et puis en parallèle donc déjà beaucoup beaucoup de sport, de roller, de piscine, etc. Et puis en milieu d'adolescence, vers ses 15 ans, il a commencé à développer des troubles du comportement d'autant plus importants en fait. Une époque, en plus, il dormait un peu moins, les journées étant longues. Heureusement qu'il a eu le roller, cette passion du roller, à l'adolescence. Faire du roller tous les jours, ça permet de, globalement, de faire baisser un peu la surénergie que peut avoir Gabin. Voilà.
Oui, et puis le domicile, ça devenait compliqué parce que recruter des éducateurs ou des psychologues quand son enfant est petit, tout mignon, porteur d'espoir, c'est plus simple que quand il est adolescent, avec des poils qui poussent. Voilà, ça peut faire peur aussi, quand on est sur un autisme sévère, non-verbal. Enfin, donc là, on s'est dit, bon, il va peut-être falloir réfléchir à une orientation vers le médico-social. Et là, Gabin a rejoint un IME. Dans lequel il est encore aujourd'hui, qui était normalement plutôt axé sur le sport, donc ça nous plaisait, et où il ne fait pas de sport.
En France, quand l'école obligatoire a été créée à la fin du 19e siècle, la question s'est immédiatement posée, qu'est-ce qu'on allait faire des enfants que l'on qualifie de retardés ?
Mireille Battu, mère de Louis et Georges.
Et il a été tout de suite dit qu'ils ne pouvaient pas aller à l'école. Et il fallait des institutions spécialisées pour eux. Alors, certes, aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle des instituts médico-éducatifs, IME. Et au sein des IME, il y a des unités d'enseignement. C'est-à-dire que l'éducation nationale envoie des instituteurs. Et c'est le choix de l'éducation nationale de décider combien on envoie d'enseignants. Et le ratio, il est de 1 pour 30. Étant donné les difficultés d'apprentissage des enfants qu'on envoie dans les IME, eh bien, il est totalement impossible d'envisager pour eux une scolarité correcte. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils ont quelques heures d'enseignement au mieux. Mais malheureusement, c'est vrai aussi quand vous êtes orienté vers l'école. Parce que si vous avez que quelques heures à l'école parce qu'il manque d'accompagnants, ben, c'est pas mieux.
Donc là, direction l'IME, c'est ça, Laurent ?
Ouais, direction l'IME. Donc là, on va faire la traversée de Paris. À une époque, j'arrivais encore à passer par le centre, mais maintenant, je suis obligé de prendre le périph' parce que c'est un peu trop l'enfer avec les sens interdits, etc. Quoi.
Donc vous faites ce trajet combien de fois par semaine, Laurent ?
3 fois, lundi, mardi, et donc le jeudi, il y va que l'après-midi.
En moyenne, vous mettez combien de temps ?
Quand ça roule bien, 3 quarts d'heure, et puis parfois, ça peut faire 1h15. Voilà. À l'aller et au retour. À la base, le contrat, c'était qu'il fasse pas mal de sport. Le sport était important. Donc, au début, il allait à la piscine. Il faisait même du roller aussi là-bas. Mais ça fait au moins 2 ans qu'il fait plus de roller là-bas. Parce qu'ils n'ont plus assez de moyens humains pour bien encadrer les jeunes. Donc, qu'est-ce qui s'y passe ? Ouais, j'aimerais bien être parfois dans l'œil de Gabin pour voir ce qui s'y passe. Alors, on a un compte-rendu, mais très sommaire. Encore souvent, on ne l'a pas dans un petit cahier de liaison. Donc, non, je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce qui s'y passe.
On peut se demander pourquoi il y a aussi peu de places en IME alors que les maisons du handicap continuent de notifier vers des IME à tour de bras. Et tout le monde sait déjà que les établissements sont pleins. Déjà parce qu'on n'a pas augmenté le nombre de places, mais surtout parce qu'il y a de ça quelques années, étant donné que déjà il manquait des places pour les jeunes qui devenaient adultes, on a trouvé un moyen d'essayer de temporiser tant qu'ils n'avaient pas trouvé de solution adulte. Et donc, on les a maintenus dans les IME jusqu'à 25 ans. C'est possible de les maintenir en IME. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une aggravation de la situation parce que vous avez une génération de jeunes de 20 à 25 ans qui sont là, qui ont une place, là où ça devrait s'arrêter à 20 ans, et les jeunes ne rentrent plus.
Alors, en étudiant en fait le sujet, j'ai découvert que l'ONU avait décrété que ces institutions-là étaient des zones de, en quelque sorte, des zones de non-droit, des lieux de discrimination qu'il fallait éradiquer.
Magali Jean-Claire, professeure des écoles.
Et le problème, c'est que plane le risque de la fermeture. C'est un petit peu l'ambition actuelle, c'est de vouloir fermer toutes ces institutions qui coûtent cher pour mettre tous les enfants à l'école ordinaire. Et c'est là que moi, je pense que l'inclusion peut être aussi un prétexte à des économies budgétaires, et pas du tout dans l'intérêt supérieur de l'enfant, mais plutôt par intérêt économique, parce qu'il faut savoir qu'une année scolaire en éducation ordinaire, c'est 7000 euros par an, alors pour un enfant polyhandicapé, moteur, cognitif, qui a besoin de soins hyper particuliers, parfois avec 3 personnes autour de lui, ça s'élève aux alentours de 72 000 euros.
On fait connaissance avec Gabin.
Ouais, la barbe, c'est quelque chose qui...
La barbe, ça l'intrigue.
D'un point de vue sensoriel. En fait, quand je conduis comme ça Gabin, il y a... C'est un peu la même chose que finalement jouer sur scène. C'est-à-dire, il y a une sorte un peu de dédoublement. C'est-à-dire, il y a le mec qui joue sur scène et puis en même temps, il y a le mec qui écoute le public. Et avec Gabin, c'est pareil quand je conduis. Il y a le mec qui conduit, puis il y a le mec qui observe ce qui se passe dans l'habitacle. Et il peut parfois se passer beaucoup de choses. Mais j'ai eu une fois un épisode très rock'n'roll sur le périph' où j'ai dû m'arrêter sur le périph' parce que j'avais un certain... Je vais pas dire le prénom de mon grand sportif, mais qui était déchaîné, qui partait en crise et qui donnait des coups de volant, qui venait devant pendant que je conduisais... Non, c'était très, très, très compliqué et j'ai dû m'arrêter. Alors, il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence, hein, d'ailleurs, sur le périph', hein, il faudrait prévoir. Mais avec Gabin, c'est ça qui est super. Un gamin, c'est qu'on s'ennuie jamais. Ouais. Et l'ennui, c'est un luxe que je ne connais plus depuis 22 ans. Mais je ne vais pas dire que Gabin a vampirisé ma vie. Gabin a enrichi ma vie. Alors évidemment, donc j'aurais préféré qu'il n'ait pas son handicap. Voilà. Le truc qui est assez drôle, quand je joue mon spectacle, souvent les gens après me disent « Ouais, mais quelle énergie vous avez sur scène !» Et je leur dis « Mais attendez, mais c'est rien par rapport à l'énergie qu'il faut pour suivre un Gabin. » Gabin, par exemple, par an, c'est 3500 km à roller sur l'année, quoi. Donc, alors, là, ça bouchonne.
Voilà, donc maintenant, Louis est accueilli en Wallonie, à côté de Tournai, à une institution qui s'appelle La Porte Ouverte. Et c'est là-bas que j'ai découvert qu'il allait aller à l'école 4 jours par semaine, à quasi temps plein, donc. Le matin, il prend le bus scolaire avec d'autres petits camarades. Et donc, d'une certaine façon, il est inclus dans la vie sociale en Wallonie, alors qu'il ne l'a jamais été en France. C'est pas la classe ordinaire. Donc, c'est une classe spécialisée. Donc, c'est pas le modèle qui est aujourd'hui recherché en France. Pour autant... Voilà, c'est un modèle dans lequel Louis se sent bien.
Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant.
Gabin. Hein?
Communication établie.
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est Gabin.
Oui, j'arrive.
Oui, merci.
Bonjour Gabin, voilà. Ça va?
Non, il est un peu tendu.
Ok.
Oui.
Gabin, tu vas à la toilette?
Merci.
Merci, bonne journée.
Oui, bonne journée. Et voilà. En fait, je n'ai pas le droit de rentrer dans l'établissement. Donc, j'ai toujours un peu l'impression de livrer Gabin comme un paquet, un colis. Voilà, j'ai l'impression d'être un livreur. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus violent pour moi, quoi. En fait, la personne qui nous a accueillis, c'est la directrice adjointe de l'établissement. Parce que là, à mon avis, ils savent pas forcément encore qui va s'occuper de Gabin aujourd'hui, quel éducateur. C'est un peu désorganisé. Et il y a même plus de chef de service, parce que la chef de service, en fait, a démissionné, pas plus tard qu'il y a 3 jours, en faisant un peu un mail d'adieu. C'était assez marrant, elle l'avait intitulé « Au revoir ». Ben, en l'espace d'un an, c'est déjà le troisième chef de service, en fait. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est la situation actuelle du médico-social. Il y a de moins en moins de gens, de plus en plus de problèmes, de plus en plus d'intérimaires, et ils ne trouvent pas forcément les intérimaires. Donc moi, c'est vrai que quand je laisse Gabin, voilà, parfois j'ai un peu peur que ça augmente ces troubles du comportement, qui ne sont pas forcément liés qu'à ce qui se passe au sein de l'IME, mais comme on ne sait pas exactement ce qui s'y passe, c'est forcément source d'inquiétude, quoi.
Allez, mon chien. Hop, hop, hop. Alors, tu veux faire un uno ? Allez, on s'installe par terre. 4, 5, 6, 7.
C'est qui commence ?
Vas-y.
Alors, tu repasses ton tour. 4.
Aïe.
8.
Ça y est, c'est parti.
8.
Bon, attends.
Je t'ai battu avec ton chiffre préféré.
Valérie, il y a une chose qui m'a frappé, c'est que finalement, au fur et à mesure que Théo prenait son envol et s'émancipait, ça vous a obligé à changer un peu de place. Vous qui étiez la mère aux petits soins aidante depuis tant d'années, tout d'un coup, il a fallu vous repositionner.
C'est très compliqué pour plusieurs raisons. La première, il faut que je retrouve qui je suis. Sans lui, donc d'abord il me manque. Et les premiers jours où il est à l'école, je l'attends, je fais rien d'autre. J'attends, des fois je suis dans la voiture, j'attends qu'il sorte. J'ai plus de dynamisme pour me mettre en route, moi, toute seule, j'ai plus d'envie autre. Donc il faut que je réapprenne à revenir vers moi. Mais surtout, je ne suis pas présente à ce qu'il vit, donc je ne comprends pas des éventuelles crises d'angoisse le soir, quand il va pas, quand tu te tapes la tête sur ton bureau de temps en temps, etc. Je sais pas ce qui s'est passé quand il est loin de moi, donc je peux pas intervenir. Je perds l'historique de la journée et je sais pas exactement, donc je perds ce lien qui était si fort et si pratique de toujours savoir à quel moment ça va céder, à quel moment faut le laisser tranquille, à quel moment faut intervenir, etc. Puisque c'est pas moi qui suis avec lui. Mais je prends le club de plongée, c'est vraiment des gens extraordinaires qui ont abordé Théo de la manière qu'il faut, à mon sens, quoi. Vraiment génial, quoi. Mais quand même, à un moment donné, je trouve qu'ils vont vite. Et moi, je connais Théo, et c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Quand ça va trop vite, quand on en apprend trop, hop, on ferme. Ce qu'on appelait, nous, quand il était petit, les régressions.
Et on va plus par là, c'est plus large, Théo. On va prendre la température de haut. Voilà. Il va, Théo?
Ouais, moi, il va falloir un peu plus de temps, quand même.
Moi, je connais suffisamment Théo pour prévoir ces moments. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait toujours cet équilibre entre ce qu'il apprend, ce qu'il est capable de recevoir, etc.
Ça va réguler la température, Théo.
Et ensuite, je suis témoin des idées plaquées sur l'autisme, des erreurs qu'ils font. Et c'est très difficile pour une mère de dire, mais non, c'est pas ça, vous vous trompez, parce que, ah bah oui, c'est une mère, elle sait tout, elle protège son fils. Combien de fois je l'ai entendu, quand même, j'ai un savoir d'expérience qui est irremplaçable, quoi. Et
qui fait de vous aujourd'hui une experte.
Je suis considérée, du coup, comme ça, maintenant. J'interviens dans des colloques, je donne des formations, voilà. Et donc, j'étais toujours prise dans cette espèce de contradiction, j'ai peur, je suis terrorisée, puis un côté, heureusement qu'ils sont là, parce qu'ils vont l'extraire de moi, ah, mais je veux pas qu'ils l'extraient de moi, enfin bon, oh bon sang.
Moi, franchement, à la plongée, je pense que c'est le seul moment où j'ai moi aussi trouvé que t'étais surprotectrice.
D'ailleurs, j'ai fini par m'éloigner, ne plus monter sur les bateaux et aller à l'attendre.
Voilà, allez, on y va tranquillement, on fait un petit aller-retour. Attention, tu appuies. C'est bon, hein. Allez, on va prendre des gilets.
Ouais, j'ai bougé un peu.
Théo, il est toujours pressé d'aller au fond de l'eau. Hein. Il est super pour ça. D'ailleurs, faut le surveiller, hein, vous voyez, dès que vous avez la
Moi, ce que je sais, c'est que Gabin, il est autiste sévère, pas qu'à moitié. Ça veut pas dire qu'il... Voilà, c'est pas un génie, mais c'est tout sauf un abruti. Gabin est intelligent, mais par contre, il n'a pas assez de canaux dans son cerveau pour faire passer son intelligence. Et donc, du coup, voilà, le langage, c'est compliqué. Le comportement, c'est compliqué. Enfin, l'autonomie, c'est compliqué. Et des Gabins, il y en a des dizaines de milliers en France. Hein, je pèse mes mots. Le discours, ça va être de dire non, mais avec l'inclusion, il faut que chacun puisse trouver un travail, etc. Ok, bon, alors, moi je veux bien qu'on trouve un travail pour Gabin. Là, vous voyez Gabin, vous l'entendez aussi. Quel travail pour Gabin, hein, Donc, Gabin, hélas, le jour où on sera plus là, il sera en établissement, ça c'est sûr. 24 sur 24. Et c'est quoi? C'est quoi la vie qu'on promet à Gabin en établissement? Pas possible. Et puis, je pense qu'il y a de plus en plus de parents qui ont fait le maximum pour leur enfant depuis tout petit et qui sont confrontés à un autisme pas facile, sans être forcément sévère d'ailleurs. Et qui disent aussi, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on fait pour Gabin? Qu'est-ce qu'on fait pour des milliers de jeunes?
Combien il y a d'enfants diagnostiqués autistes par an en France?
Alors, les dernières études de 2022 retrouvent une prévalence de 1%.
Valérie Ventalon, médecin responsable du Centre d'évaluation diagnostique autisme à l'hôpital Robert Debré.
Avec, je crois, une majorité de garçons.
En pédopsychiatrie, il y a 4 garçons pour une fille dans tous les motifs d'hospitalisation avant l'adolescence. Vous pouvez le voir dans les couloirs. On pense aujourd'hui, enfin depuis une petite dizaine d'années, qu'il y a une possibilité de sous-diagnostic des symptômes chez la fille. Donc aujourd'hui, avec les outils dont on dispose, ce sont les formes sévères des filles qui sont dépistées. Peut-être que les formes moyennes et légères qui sont dépistées chez les garçons le sont moins subtilement chez les filles. On peut penser qu'il y a des raisons culturelles, des raisons liées au fait que le développement d'un petit garçon est peut-être plus sous l'œil scrutateur des parents qu'une petite fille. On peut aussi penser que les descriptions initiales sont celles de petits garçons et que les symptômes des petites filles sont peut-être un petit peu s'expriment de manière différente. Ce sont les mêmes, mais ils s'expriment de manière différente.
Alors effectivement, depuis quelques années, on décrit le phénomène de camouflage.
Élise Humeau, psychiatre.
Donc le camouflage, c'est le fait de masquer ses difficultés et aussi d'imiter les autres pour apprendre des scripts sociaux qu'on va reproduire dans la vie plus tard. Et le camouflage, c'est pas spécifiquement féminin, c'est aussi décrit chez les hommes, mais les femmes utiliseraient plus de stratégies de camouflage que les hommes.
Bonjour, je m'appelle Maya, j'ai 18 ans, je suis étudiante en première année de médecine à Sorbonne Université.
Et vous avez été diagnostiquée autiste,
oui.
C'est ça Maya ?
Oui, à peu près en 2020, quand j'avais 14 ans. Bah, je crois qu'en fait, il n'y avait pas tant de signes que ça, parce que ça a mis vraiment beaucoup de temps. En fait, j'ai dû voir au moins 5 ou 6 psychologues et psychiatres et tout avant d'être diagnostiquée autiste. C'est que j'avais d'autres problèmes de l'ordre de l'anxiété sociale et de la phobie scolaire un peu. Du coup, j'allais plus trop en cours, je sortais plus trop de chez moi, en fait. Je faisais des crises d'angoisse et voilà. J'avais arrêté, enfin, pas complètement arrêté l'école, j'étais encore scolarisée officiellement, mais j'avais arrêté de venir en présentiel quasiment complètement. J'ai fait à peu près 2 ans au CNED et c'était compliqué. Je sais que j'avais une neuropsychologue qui m'a dit oui, après là, m'avoir vu plusieurs séances, avoir parlé avec elle pendant plusieurs séances, qui m'a dit oui, en fait, je pense que vous avez un trouble du spectre autistique. Du coup, j'ai revu encore plusieurs séances pour un peu confirmer tout ça. Et après, pour avoir un diagnostic officiel, ce qui est nécessaire pour tout ce qui est MDPH et tout, j'ai vu une psychiatre en appel visio, parce que c'était pendant le Covid, donc elle a vu la moitié de ma tête sur une toute petite caméra d'ordinateur, mais ça lui a suffi pour conclure là-dessus. Mais ça a facilité l'accès aux aménagements d'études dont j'avais besoin, et dont j'ai toujours besoin à la fac.
Donc aujourd'hui, vous êtes aidée à la fac ?
J'ai un tiers-temps. Ça veut dire que sur un examen d'une heure, j'ai le droit à 20 minutes de plus, donc j'ai un examen qui dure 1h20.
Très probablement, les filles qui sont sans déficience intellectuelle, mais le diagnostic plus tard.
Anna Marouani, pédopsychiatre.
Et la porte d'entrée du diagnostic du trouble du spectre de l'autisme, ça va être j'ai une décompensation anxieuse, je suis plus inhibée, j'ai plus de troubles anxieux, j'ai plus de troubles dépressifs, des tentatives de suicide. Et il y a beaucoup d'enfants qui arrivent aux urgences pour ces troubles psychiatriques. Et puis en fait, ça va être la découverte de troubles du neurodéveloppement qui avaient été un peu plus camouflé ou un peu moins en premier plan, on va dire, par rapport à d'autres enfants qui ont, dès la petite enfance, des troubles plus bruyants, plus externalisés, plus visibles.
Vous imaginez travailler en laboratoire ou au contact des patients ? Parce que c'est pas si évident que ça, j'imagine, quand on a été diagnostiqué autiste et que c'est pas facile toujours d'entrer en contact avec les autres.
C'est vrai que c'est pas facile, mais je trouve que la difficulté, elle est vraiment plus dans mes relations personnelles que dans des relations qui seraient d'ordre plutôt, des interactions plutôt d'ordre professionnel, qui sont des interactions qui sont pas très longues en général, et qui ont un but, alors que par exemple se faire des amis, sympathiser avec des gens, il n'y a pas vraiment de but précis. C'est pas comme quand quelqu'un va chez le médecin, c'est pour quelque chose, c'est pas...
Dans la socialisation avec les autres élèves, mais peut-être même avec les profs quand vous étiez en cours, qu'est-ce qui était compliqué ?
J'avais un peu l'impression que tout le monde avait une sorte de mode d'emploi de comment fonctionner avec les autres, comment parler avec les autres, dans différentes situations, les différentes situations où telle ou telle forme de langage, telle ou telle forme de communication sont adaptées ou pas adaptées. Le mode d'emploi m'avait été passé à côté et que j'avais un peu... Du coup, il me manquait cette partie-là de savoir comment... me comporter dans différentes situations avec différentes personnes et tout, qu'il fallait s'adresser d'une certaine manière ou d'une autre manière, enfin voilà. Puis je pense que ça n'a pas facilité mes relations sociales, surtout à l'époque du collège où c'est quand même un environnement qui est particulier, je trouve, la préadolescence, l'adolescence. Au collège, il y a des codes qui sont très précis et que j'avais pas du tout. Et puis, ouais, j'avais un peu tendance à dire tout ce qui me passait par la tête et ça facilitait vraiment pas le fait de s'entendre avec les autres. Mais après, ça s'est plus amélioré en allant au lycée, tout ça, tout ça. Maintenant, j'arrive à bien m'entendre avec les gens sans leur dire tout ce que je pense.
Est-ce que vous le dites facilement, Maya, que vous êtes autiste ?
Pas du tout. J'ai dû le dire à peut-être 3 personnes dans mes proches, à moi. Enfin, oui. Dans mes amis et tout, je pense qu'il y a à peu près 3 ou 4 personnes à qui je l'ai vraiment dit. Et puis le reste, bah, ma famille et tout, ils sont au courant parce que ma mère leur a dit. Et les gens qui sont proches de ma mère sont au courant parce qu'elle leur a dit aussi. Mais sinon, moi, je l'ai dit à très peu de monde, en fait. Je sais pas, c'est pas vraiment que j'ai honte ou quoi, mais juste, j'ai pas envie.
Et vous avez pas l'impression que parfois ça aiderait les autres à mieux vous comprendre quand vous êtes en difficulté ?
Peut-être, je sais pas, j'ai jamais essayé, en fait. Mais peut-être, mais en même temps, peut-être pas du tout. Peut-être que ce serait l'inverse, parce qu'on a aussi beaucoup d'idées reçues sur l'autisme. Mais moi, avant d'être diagnostiquée, enfin, pour moi, je savais pas vraiment à quoi ça ressemblait. Donc je pense que ça aide pas forcément, en fait. Peut-être maintenant, parce qu'on vous connaît un peu mieux, mais je suis pas vraiment sûre.
Bienvenue à tous pour ce groupe que j'appellerai Aptitude sociale. Il s'agit de confronter entre nous des expériences et surtout s'aider mutuellement à appréhender les situations sociales qui nous entourent. D'accord ? Quelqu'un veut commencer peut-être ?
Moi, quand je m'engage, c'est toujours à fond. Je sais pas y aller à moitié. J'arrive pas à voir en gris, c'est blanc ou noir. Alors je m'attends à ce que les autres fassent la même chose et je suis souvent déçue.
C'est à cause des mots. Les mots pour nous sont importants. Ils décrivent une réalité, ils renvoient à des images. Quand on dit quelque chose, c'est du solide, alors qu'on a parfois l'impression que pour les neurotypiques, les mots sont flous.
Ils disent des phrases en l'air.
Oui, Guillaume, vas-y.
Je me rends compte combien je perçois mal les intentions des gens. Mais du coup, je vis dans l'angoisse de me faire avoir, d'être trop naïf. Je me suis fait piéger tellement de fois.
Ah oui, la confiance.
Mélina, vous allez au centre médico-psychologique du 17e arrondissement à Paris. Vous êtes suivie là-bas ?
Oui, au CMP.
Et vous participez tous les lundis soirs à des groupes d'intersubjectivité. C'est quoi ces groupes ? Qu'est-ce qui s'y passe ?
Avec des autres adolescents de mon âge environ, enfin, surtout des lycéens, du coup, on se raconte ce qui s'était passé dans nos souvenirs avec des adultes. Comme ça, du coup, on se réorganise comment on fait pour s'améliorer. On a fait des petits jeux pour mieux se remettre en forme, je pense. Enfin, du coup, ce que j'ai du mal, c'est plutôt la relation entre camarades, parce que la chose que je veux surtout pas recevoir, c'est les insultes.
Depuis combien de temps vous avez découvert que vous étiez autiste, Mélina ?
Depuis quand je commençais mon année au collège, aux alentours de 11 ans.
Oui, elle s'est rendue compte à cet âge-là déjà qu'il était différent, parce qu'avant, il se perçoit comme les autres. Mais à 11 ans, il commence à prendre conscience de certaines difficultés et pourquoi ne pas les mêmes choses que les autres filles, de ne pas arriver à faire de connaissances, même de parler avec les autres comme font toutes les filles. Et c'est pour ça qu'il commençait le grand chagrin pour elle.
Caroline et Loïc, parents de Mélina.
Tu avais peur que les autres se moquent de toi ?
Ouais, ça me fait la honte. Des garçons qui se moquent des autres. J'ai peur que ça arrive à moi si je leur parle. Dans ma tête, j'ai eu ultra peur. C'est surtout quand je réussis, du coup, je suis hyper fière de moi. Mais quand c'est une faute, je me réagis mal.
C'est vrai qu'il faut, quand Mélina fait quelque chose, il faut que ce soit parfait. Sinon, elle a un très haut niveau d'exigence vis-à-vis d'elle-même.
On profite maintenant que Mélina accepte son handicap et pour sortir, parce qu'avant, c'était vraiment compliqué quand il avait des crises. Ça nous a fait vivre de certaines situations très pas confortables par rapport à le regard des autres, même des jugements, sans savoir rien. Et c'est compliqué de gérer tout ça psychologiquement comme parent, et aussi pour être en calme, pour soulager ma fille.
Et être autiste, alors c'est quoi pour vous?
Autiste, c'est quand, cette personne réagit différent que les autres, c'est-à-dire, du coup, qui n'ose pas se regarder dans les yeux ou participer avec les autres à des activités. Mais l'autisme pourrait faire mieux de passer souvent tout seul dans son coin.
C'est votre cas, vous? Souvent, c'est plus facile pour vous d'être toute seule dans votre coin?
Oui, c'est plus tranquille. Moi, ma passion, c'est les dessins libres.
C'est quel genre de dessin?
Dessins libres, voilà.
Vous en avez, là?
Je n'ose pas le montrer aux autres. J'ai peur ce que les autres pensent quand je dessine, voilà. Mais je montre seulement quand j'ai l'envie, moi.
En tout cas, vous dessinez drôlement bien.
Ça, c'est depuis quand j'étais enfant. Mais ouais. C'est parce que j'avais trop honte, parce que majoritairement, c'est sur les jeux vidéo, ma vie. Et tant que c'est sur les jeux vidéo, j'ai pas envie de le montrer. Parce que sinon, ils vont croire que je suis plus dans la vie réelle. Ils vont croire que je suis plus dans... que je suis plus ici. Je suis un peu trop émotive. Tant que je suis autiste, j'ai beaucoup montré trop d'émotions. Après, quand quelque chose se passe trop mal, c'est pour ça que j'ai pas envie d'être comme ça. C'est comme si je refuse ma tristesse, les larmes.
Alors là aussi, ça a évolué au fil des années. Au début, bah, ça se manifestait par des cris, par des... Là, Mélina aussi a fait un gros travail de prendre sur elle. Et donc là, dans ces cas-là, elle a besoin effectivement de s'isoler.
Il faut qu'elle s'isole pour se retrouver et être disponible pour les autres.
C'est aussi utile pour se débarrasser des larmes.
Il n'y en a plus là?
Non, mais je continue à sentir. Ça, c'est le défaut que je déteste avoir tant que je suis autiste.
Mais il n'y a pas que les autistes qui pleurent.
Il y a qui d'autre alors?
Il n'y a pas d'âge pour pleurer.
Tout le monde pleure. Des fois dehors et des fois en cachet. On se cache pour pleurer des fois.
Ok.
Valérie Gacorajou, mère de Théo.
L'idée, c'est qu'il puisse vivre en colocation avec l'un de ses amis.
Ouais.
Voilà, son rêve, c'est vraiment le but. Ouais. Et le mien aussi. Hein. Et moi aussi, j'ai envie d'être un peu tranquille aussi, et puis de ne plus avoir affaire à manger du blanc et du jaune. L'éloignement, c'est ça, c'est lui faire confiance. Lui faire confiance dans l'échec. C'est qu'il se trompe ou qu'il est mal, mais c'est pas si grave. Voilà, c'est ça. Je supporte pas qu'il ait mal. Quand je le vois pleurer, ça me déchire le cœur. Mais c'est ça, je pense, qu'il faut que j'arrive à faire, à me dire, mais il a pas acheté à manger, ben il mange pas, ben ça va, il apprendra comme ça.
Oh, je vais pas mourir si je mange pas.
Non, non, de toute façon, c'est l'habitude en plus.
Enfin, sauf si je mange pas dans 3 mois, mais là. Hein.
Voilà, il est là l'éloignement. Puis arrêtez de penser à lui tout le temps, tout le temps, tout le temps. Arrêtez de dire nous ou on. C'est lui et moi. Enfin, c'est compliqué. C'est 20 ans qu'on vit ensemble non-stop.
Je peux te poser une question indiscrète, Théo.
Ouais.
Est-ce que tu es déjà tombé amoureux?
Du véritable amour, non.
Est-ce que tu y penses?
Rarement, j'avoue. Disons que j'assistais à beaucoup de couples autour de moi qui se sont mal finis. Ce qui fait que j'ai l'impression que c'est pas si bien que ça, en fait, être amoureux. Donc, non. Et j'ose presque espérer que ça ne m'arrive pas.
C'est vrai que ça fait longtemps que tu me dis que ça t'attire pas et qu'une partie de moi est soulagée. J'ai peur de ces premières douleurs amoureuses. Et une partie de moi est triste parce que c'est tellement génial. Et puis de toute façon, ça ne me regarde pas parce que moi, je vais m'éloigner.
Est-ce que vous avez des amis, vous, Mélina?
Ben, Oui, au collège, je pense pas trop, mais à cette année-là, oui, c'est Alexander. C'est parce que lui, il est très amical, et surtout, du coup, souvent, il me sourit. Mais je pense que parfois, il parle un peu beaucoup. Il est bavard, un peu. Ce mois-ci, il a une très grande passion pour Notre-Dame de Paris à cause de la réouverture. Il me dit habituellement ça. Moi, je sais pas si je vais aller à Notre-Dame. J'ai peur qu'il y ait trop de monde. Faut toujours attendre des heures et des heures.
Et il a quel âge ?
17 ans.
Et donc aujourd'hui, vous êtes dans le même établissement, c'est ça ?
Oui.
Qu'est-ce que vous y faites tous les deux ?
Du vitrail. CAP première année.
Je peux vous faire un compliment ?
Oui.
Mais vous aussi, vous êtes souriante.
En quelque sorte.
Je sais que parfois, c'est difficile pour des personnes autistes de regarder dans les yeux. Vous n'avez pas de mal à me regarder.
Enfin, c'est parce qu'on apprend à se connaître.
Ah ouais. On s'est déjà rencontrés une première fois.
Oui.
Au CMP.
Oui.
Ah.
Il arrive.
Qu'est-ce qui arrive ?
Alexander.
Son ami ?
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Vous êtes Alexander ?
Oui.
Bonjour Alexander.
Bonjour.
Bonjour. Donc c'est vous l'ami de Mélina ?
Ouais, je le suis. Je le connais depuis la rentrée, on a fait un escape game. On a essayé de résoudre quelques énigmes.
Oui, mais au final, on n'a pas gagné.
C'est vrai, on n'a pas encore gagné. On s'est bien parlé pendant après la rentrée. On s'est bien s'amusé. Il y a aussi les pouces comme ceci, le pouce chinois.
C'est-à-dire ?
Enfin, un bras de fer chinois, c'est sauf que c'est avec des pouces et on se...
Ouais. Ah oui, il faut se faire des petites batailles de pouces, c'est ça, comme des petits bras de fer de pouces.
Et
quoi.
Oui, yes. Elle aussi, il gagne tout le temps partout où je fais, mais...
Bah, c'est parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas très fort, voilà tout. J'ai mes talents, moi, même yes. Si je suis autiste.
Et pour moi, c'est un grand moment quand j'étais avec Mélina. On s'est fait raconter une troisième amie, il s'appelait Luca Gabriel.
Donc vous êtes une petite bande.
Une petite bande.
Oui, un trio, je dirais.
Et Lucas Gabriel, il est autiste aussi ?
Je ne sais pas.
Je pense que oui, parce que la chose qu'il n'aime pas, c'est quand on lui touche sans demander, un peu comme moi.
Mais pour moi, ça ne me dérange pas.
Ah ben, moi, du coup, à chaque fois quand il y a une chose qui s'est bien passée, il me dit « dans mes bras ». Il me fait parfois des câlins alors que j'ai rien demandé. Parce que pour moi, les câlins, c'est plutôt quand j'ai besoin d'être réconfortée. Parce que quand on a réussi, je préfère plutôt un chèque.
Comme ceci.
On se tape dans la main.
Oui, parce que j'ai l'impression que les câlins, ça fait plus amour que amitié.
Et aussi, quand j'étais à la cantine aussi. Il avait beaucoup de très magnifiques choses à manger, comme les pizzas, les poulets rôtis, et aussi les grandes salades.
Oui, il est drôle quand il parle, toujours.
Comme un perroquet bavard.
Enfin, c'est surtout quand tu répètes les choses, parce que j'ai cru que tu ne te rappelles pas ce que tu avais dit depuis il y a des moments.
Alors, il paraît que vous avez une passion pour Notre-Dame, Alexander,
ah oui.
C'est vrai ?
Oui. Bien sûr. Parce que maintenant, la cathédrale rouvrira ses portes. Demain, non, ouais. C'est l'inauguration. Ouais. Et 2 mois après, sera la consécration de l'autel. Quand j'entrerai dans la cathédrale, je vais redécouvrir les voûtes qui ont été réparées, la croix de gloire qui a été épargnée par l'incendie. Et aussi, j'ai hâte d'entendre ces cloches. Quand les 8 cloches du beffroi nord ont été restaurées, j'avais peur pour les 8 cloches de la tour nord. S'il s'écroule, toute la cathédrale disparaîtra.
Voilà comment j'appelle avoir une très grande passion pour Notre-Dame.
Eh oui. Faut que tout le monde sache que Notre-Dame va rouvrir demain.
Ok.
Quand à Paris, c'est magnifique, ces belles villes capitales. Les grandes villes de lumière, les grands monuments historiques qui se dressent vers le ciel.
Wow.
Mélina, elle m'a dit que souvent vous lui montrez les mêmes vidéos. C'est des vidéos de quoi?
Ah oui, il y a des vidéos, comme des cathédrales, des grands dessins animés.
Oui, des dessins animés, parce que j'ai l'impression que c'est toujours pas un adolescent. Je pensais que normalement, les adolescents à notre âge regardaient plutôt des séries comme dans Netflix, au lieu des dessins animés pour enfants. Ça me fait honte quand il voit ça. Je pensais qu'il... J'avais tellement cru qu'il a une régression d'âge.
Ouais. Et aussi, je montrais des bandes annonces des films qui vont arriver dans les grands cinémas.
Oui, c'est le cas.
Dans le sport, on est comme des équipes de duo quand on a fait le relais.
Ah bah, Alexander, voyons, je sais pas si c'est un peu hors sujet par rapport à l'autisme. Parce que c'est le thème d'aujourd'hui.
L'autisme. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ce mot?
C'est comme être handicapé. Et aussi... Ouais, je pense que c'est tout.
Se projeter pour l'avenir de Louis...
Mireille Battu, mère de Louis.
C'est aussi se projeter dans le fait que je ne serai pas toujours là. J'aimerais que Louis puisse bénéficier d'un environnement dans lequel tout ce qu'il aime, il pourra le faire, et puis où il pourra rencontrer des gens qui aiment les mêmes choses que lui. Et en Belgique, il y a la Pommerée. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'habitat inclusif. Hein. Vous avez votre appartement, mais vous êtes dans un réseau collectif. L'intérêt étant que vous allez pouvoir trouver des lieux de socialisation, notamment autour de la musique. À mon sens, c'est quand même ça qui sera intéressant pour Louis. Mais aussi la possibilité de sortir, de faire des balades, c'est ça qu'il aime. Après, est-ce que Louis sera en mesure de travailler un jour? Je crois que la question ne se pose pas vraiment, parce qu'il n'a pas eu accès... à ce qui aurait été nécessaire pour apprendre quelque chose, qui lui permette de travailler de façon à gagner de l'argent. Et je ne suis même pas sûre que ça serait mieux pour lui. Donc voilà, c'est très difficile d'envie de se projeter dans le futur.
Quand j'ai dessiné la façade de la cathédrale, j'ai cherché quelques images de quelles je vais dessiner. Pour dessiner la flèche, je fais par main levée ou par règle.
Ça s'appelle du dessin technique, Alexander.
C'est un peu compliqué pour faire les grandes formes. Oui. Mais mon avis, elle m'a aidé comment faire.
Moi aussi, j'aimerais en avoir un ou une auxiliaire de vie scolaire à moi. Parce que c'est un peu compliqué de se partager.
Pour moi, c'est la stress quand l'arrivée des grands contrôles. C'est comme le contrôle de français, des maths et aussi des grands devoirs partout.
C'est dans quelle matière vous êtes le meilleur?
L'atelier, techno et aussi anglais parce que je parle beaucoup anglais. Et aussi comment couper le verre. Quand je monte le panneau, c'est qu'on dirait que c'est un grand maître verrier.
Lui, il me parle le plus souvent de vitrail.
Des vitrails.
Oui, j'ai pas, c'est parce que tant sa passion du vitrail est très grand, du coup j'ai l'impression que c'est... Oh là là, l'embrouille. Pourvu que ça s'arrête. Moi, je préfère quand il parle des choses qui sont vraiment nouvelles.
C'est ce que vous voudriez faire plus tard, devenir maître verrier?
Pas du tout, alors je serai architecte.
Moi, je n'ai aucune idée encore. J'ai choisi vitrail parce que, du coup, c'est surtout les couleurs des verres qui m'intéressent. Et je pensais que ça peut mieux me simplifier la vie. Parce que si je suis au lycée général, ça va être compliqué, je dirais. Avec la vitesse des cours, faut toujours prendre vite des notes. Il y aura encore beaucoup de monde, ça va faire encore difficile. Parce que depuis au collège, nous étions une trentaine. Voilà.
Là, un petit groupe, c'est plus facile de se concentrer.
Oui. Nous sommes que 16. Quand on est très peu, du coup, c'est plus facile de se concentrer.
Autant je pense que Théo est tout à fait en mesure d'être autonome aujourd'hui, l'indépendance, on en est loin. On en est loin parce que ce système-là, violent, je veux dire, il y a des jeunes qui rentrent dans la vie courante, ils morflent, quoi. C'est la course à l'argent, la course au travail, à la reconnaissance, avec une épée de Damoclès sur la tête, le renvoi, le chômage, et vivre à la rue.
Sans compter que si t'as pas tel ou tel ou tel diplôme, tu peux pas y aller.
Oui, en plus, avec son parcours atypique, bon, il est reconnu aujourd'hui comme travailleur handicapé, mais le problème, c'est que les travailleurs handicapés, on va les balancer. Vous voyez, quand il était petit, Théo, pour lui expliquer l'autisme, j'avais tracé une ligne sur une feuille. Tu te souviens de ça, Théo ?
Ouais, la ligne.
Voilà, et à droite, c'est la norme, à gauche, c'est le handicap. Et plus on est près de la ligne, plus c'est compliqué. C'est d'ailleurs une citation que je mets sur mon mur Facebook, « La marche fait partie de la page ». C'est la marge, mais elle fait partie de la page. C'est-à-dire que cette norme, elle a été fabriquée. C'est pas la norme humaine, c'est pas la norme d'un individu. C'est la norme d'une pratique sociétale. C'est de l'école, de la médecine. À tel âge, on rentre dans telle classe. Théo a été propre à 7 ans, mais il a été propre. Théo a parlé à vraiment bien à 5 ans, mais il a parlé. Très certainement, si on n'avait pas pris ce temps avec lui, Théo serait retourné... comme au moment où on lui a mis la main sous l'eau, dans sa bulle autistique, foutez-moi la paix.
D'un côté, il y a le côté carpe diem, donc chaque jour vivre au maximum, et puis après, évidemment, dans un coin de notre tête, on essaye de préparer les choses au mieux, mais je pense qu'il ne faut pas vivre non plus chaque jour en se disant « Ah oui, mais plus tard », parce que ça, quand Gabin, même, il n'avait même pas 3 ans, hein, de notre propre entourage, propre famille, on a entendu « Oui, mais alors comment vous allez faire plus tard ?» Alors que Gabin, il avait 2 ans, quoi.
Je vois que ça vous émeut particulièrement.
Ouais, non, c'est pas un sujet facile.
Ça vous angoisse, ça vous...
Bien sûr, ça vous... bien sûr.
Mais on prépare les choses, quand même.
Oui.
On les prépare.
Ah, oui.
Donc, ce qu'on envisage, c'est... il sera, j'ai envie de dire, hélas, je suis obligé de mettre le mot hélas en établissement. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'attaquent au médico-social, genre il faut en finir avec le médico-social, mais ils n'ont pas un enfant autiste avec le même autisme que Gabin.
C'est sûr.
Donc nous, il sera obligé d'être en établissement. Et ça me fait chier, mais profondément, ça nous... Mais en même temps, le but, c'est à partir du moment où on n'a pas d'autre solution, que ce soit le meilleur établissement possible. Et il y en a. Comment dire ? On ouvre continuellement de nouvelles pages, de nouveaux chapitres. Et puis, on espère à chaque fois que ça se passe le mieux possible et on aimerait vraiment que, à un moment donné, on puisse fermer la page du livre en se disant, ça y est, maintenant, Gabin, il va être bien tout le temps et que simplement, le dernier mot, ce soit bonheur. Full, bonheur pour Gabin parce qu'il le mérite, tout simplement.
Je peux le dire maintenant, toute ma vie, j'ai tenté de rejeter mon autisme. Je regardais les gens autour de moi pour les imiter afin de leur ressembler. Un peu comme lorsque j'avais fabriqué mes phrases avec les youtubeurs. Parler comme eux, c'était l'assurance de parler comme tout le monde. On ne me jugerait pas. Et si jamais on ne parvenait pas à me comprendre, ce ne serait pas ma faute, puisque je n'étais pas l'auteur de ces phrases. Mais d'une certaine manière, je n'étais plus personne, car j'étais tous ceux que je copiais. Je me suis construit une normalité qui ne venait pas de moi, mais de ce qui me semblait convenable chez les autres. J'ai compris cela il y a peu, parce que j'ai beaucoup réfléchi à qui j'étais et pourquoi j'étais comme ça. Je me rends bien compte que ça paraît paradoxal. J'agis de manière autistique pour camoufler mon autisme. Je lis et entends souvent qu'il faut s'accepter tel qu'on est. Je ne sais pas ce que souhaitent les autres, ni comment ils s'en sortent. Pour ma part, je ressens toujours mes symptômes comme une maladie à soigner. Ça rend la vie si compliquée. Mais je suis un adulte maintenant. Je dois devenir responsable. Je ne peux pas en vouloir aux gens d'oublier ce que je traverse si je passe toute mon énergie à le cacher. Il faut que j'accepte de me regarder tel que je suis avant de réclamer aux autres d'en faire autant. Maman me dit que être différent n'est pas synonyme de être moins bien. Oui, je sais, mais ça ne me suffit pas. Imaginez une rangée de chaises avec le dossier contre le mur. Une seule a son dossier dans l'autre sens. Qui passerait à côté de cette rangée sans la remarquer? et combien résisterait à l'envie de la retourner afin qu'elle soit bien alignée. Et pourtant, quelle que soit sa position, elle reste une chaise, non ? Je suis cette chaise.
À la croisée des chemins, autisme entre mère et fils, Valérie Guécorajou et Théo Fache. Est-ce que vous aimeriez tomber amoureux un jour ?
Non, ça jamais.
Si moi, si je tombe amoureux, ça va être trop compliqué, là, la relation. J'ai peur qu'il y ait des disputes encore. La séparation. Parce que si, il faut que je tombe amoureux, il faut qu'on ait les mêmes sentiments. C'est ça que je veux.
Voilà pourquoi on est devenus des amis après tout. Pour toute l'éternité.
L'éternité, tu te rends compte? Moi, je suis pas sûre si on va rester dans l'éternité parce que pour l'an prochain, je suis pas sûre si on va toujours rester ensemble. Alexandre, c'est impossible qu'on soit à l'éternité.
Ne t'inquiète pas, le sais.
J'ai envie parfois d'être un peu seule, tu vois. On va pas rester collés pour toujours, ça me fait plus honte.
Je sais, j'espère que je vais rester dans ce lycée.
Oui, c'est parce que quand je te dis ça, je suis sérieuse, Alexander.
Je le sais, crois-moi. Et l'an prochain, en 2025, je sais pas ce qui va se passer ensuite. J'ai peur d'être expulsée de l'école.
Expulsée? Alors que t'as rien fait de grave, Alexander. Sérieusement.
Je vous remercie, parce que c'est notre première fois qu'on interviewe, parce que...
Enfin, surtout sur le thème de l'autisme.
Le grand thème de l'autisme, c'est ça. Parce que depuis quelque temps, on n'a jamais été interviewé comme ça. Et sauf au jour du patrimoine, dans la cathédrale, j'étais interviewé par des fondations Notre-Dame. Pour la toute première fois.
C'est vrai.
Au moins, grâce à Mélina, je pense qu'on est des grands potes après tout.
Bah oui, c'est moi qui t'ai invité.
On est des grands amis.
Oui,
pour toute la vie.
Tu l'as encore dit, encore.
Vous faites un check ?
Ouais.
Merci encore à vous deux.
De rien.
Monte la mer et on descend. Il y a des rails sous l'océan. Un labyrinthe, un tourbillon.
Merci à Mireille Battu, Louis et Georges, à Laurent Savard, Marie-Lou Agathe et leur fils Gabin Agathe Savard, ainsi qu'au professeur de l'hôpital Robert Debré. Merci également à Maya, Mélina, Alexander et leurs parents, à Valérie Guay-Corajou et Théo Fache, et à Valérie Moreno du CMP Enfants Compoint à Paris. Extrait de texte à la croisée des chemins de Valérie Guay-Corajou et Théo Fache. Prise de son, Thomas Robin, Yvan Charby, Jérôme Casamayou et Xavier Lévesque. Mixage, Manon Houssin. Documentation, Anne-Lise Signoret. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaïs Morales. Coordination, Johanna Bedeau et Emmanuel Laurentin. Autisme, les combats d'une vie. Épisode 3, Adolescence, une transition sous tension. Un documentaire de Jérôme Sandlars, réalisé par Cécile Lafont.